Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les Docks. Un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, des vies iliennes. Et aujourd'hui, Groix, l'île réelle. Un documentaire d'Alexandre Hérault, réalisé par Yvon Croisier. Alors vous allez dire quoi ? Encore les îles et les mêmes clichés éculés ? Eh bien oui, toujours, parce que bizarrement, ça continue à faire rêver. Il y a les îles paradisiaques, le sable blanc et les palmiers, les Caraïbes, les Grenadines, les archipels où l'on rêve de se perdre, des îles pour naufragés d'où l'on jette des bouteilles à la mer, des îles comme des refuges, des endroits pour s'isoler, au sens propre pour une fois, se retirer, s'excentrer, se replier. Des îles où l'on cultive son particularisme, sa différence, où l'on aimerait rester entre soi, où l'on voit d'un mauvais œil l'étranger abordé. Des îles avec des traditions, des métiers, des histoires qu'on se transmet, des légendes, et enfin, des îles si petites que tout le monde se connaît. Mais ces îles, pour certains, sont comme des prisons, étroites, étouffantes, qui donnent la sensation de tourner en rond, surtout quand on est jeune et que l'hiver est long, et puis surtout qu'on le sait bien, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Alors, troisième volet, on remonte dans le bateau.
Le Pierre, viens sur la droite, s'il te plaît. Voilà, Pierre, le timonier.
Bonjour, timonier.
Vous pouvez nous conduire de Lorient à l'île de Groix.
Là, on quitte la rade de Lorient, capitaine Chaplin. On a le soleil avec nous. C'est déjà ça.
Oui, aujourd'hui, la météo est clémente. Pour assurer la traversée entre Groix et Lorient, c'est mieux.
Mais sinon, les liaisons avec les îles, là, on parle de Groix, sont nombreuses. On peut dire que même l'île n'est plus si isolée que ça. Avec la société morbihanaise de navigation, c'est presque 10 fois par jour qu'on peut se rendre en 45 minutes, je crois, sur le caillou, comme ils disent là-bas.
Le caillou, oui.
Ouais.
Bon, 45 minutes, mais c'est la durée de la traversée. Bon, en hiver, nous assurons tout de même 5 traversées, ce qui est bien. Ce qui est bien pour les insulaires.
Bon, les insulaires, les Groisillons.
Oui, les Groisillons.
Qu'est-ce que c'est maintenant, Groix ? Vous avez vous-même prononcé le mot, caillou ?
Un caillou, c'est toujours une île.
Eh oui. Mais dites-moi, capitaine, ce qu'on voit en face de nous, c'est déjà Groix ?
Bon, déjà, vous voyez, on découvre Groix maintenant. Groix qui se trouve à 6 km de Lorient.
Elle ressemble à quoi ?
Ouais, l'île de Groix, la longueur d'île de Groix, elle fait environ 9 km de long, sur environ 3-4 de large.
Une île à taille humaine.
Groix, l'île réelle. Yvon Croisier, Alexandre Hérault.
Vous voyez l'entrée. Nous engageons l'entrée de Portugal. Entrée très étroite. On va accoster la cale de Portilly. Bien reçu. Nous ouvrons la porte du débarquement et nous libérons les estivants.
Si je vous dis Gilbert Nexer comme étant un pied à Portilly, on a l'impression de rentrer dans une carte postale.
Portudi, une carte postale. Oui, aujourd'hui, c'est devenu une carte postale moderne, parce que c'est envahi par des plaisanciers, alors que j'ai connu encore ça, étant enfant, rempli de thoniers. Et ça avait une autre allure. Il y avait, vous voyez, des cabanes qui sont le long du bord. Là, il y avait des forgerons, des voiliers, des charpentiers. Et tout ça, il y avait une vie extraordinaire ici.
Frédéric Lecornou, c'est un peu réducteur, ce terme-là, de caillou.
Réducteur d'un côté, oui, mais finalement, Groix, la grande et vraie particularité de Groix, mis à part son passé tonnier, ce sont justement les cailloux. On est sur ici un site géologique d'exception, classé en partie réserve naturelle, un site d'importance internationale. Donc finalement, en appelant ça le caillou, on désigne tout de suite la vraie grande particularité de l'île.
Comment il se présente d'ailleurs, ce caillou ? Silhouette assez plate au demeurant?
Effectivement, on a l'impression d'avoir une table bien plate posée sur la mer. Quand on se promène, notamment à vélo, on s'aperçoit que la table est assez ancienne, parce qu'il y a pas mal de trous de bosses. Et cette table, en fait, est penchée de l'ouest vers l'est. On a des falaises qui vont tourner jusqu'à 40 mètres de haut, donc une table inclinée, même si, effectivement, quand on arrive au bateau, l'inclinaison n'est pas évidente.
Comment vous auriez envie, Monsieur le maire, Éric Régenermel, de nous le décrire, ce caillou?
C'est un caillou un petit peu extraordinaire, parce que déjà, il n'est pas formé de la même roche que le reste du plateau continental ou que n'importe quelle autre île du coin. C'est ça qui fait qu'on a également un habitat très différent, d'ailleurs, puisque c'est un habitat non pas en granit, comme toute la Bretagne, mais en schiste. Et puis, sur ce caillou, se sont installés des gens depuis le néolithique. Et depuis le néolithique, il s'est pas passé grand-chose, jusqu'à ce qu'arrive l'ère un petit peu pré-industrielle, et en particulier la pêche tonnière à Groix, dans le 19e siècle. Donc, on a une île qui a explosé à un moment, sur le plan humain, sur le plan industriel, sur le plan social. Jusque pratiquement dans les années d'après la dernière guerre. Et là, depuis, on observe, à l'instar des grandes mutations sociales, également une grande mutation, c'est-à-dire un déclin démographique, une arrivée massive du tourisme. Donc, tous ces impacts-là, on les a subis les uns après les autres, et ce sont des défis les uns après les autres qui sont arrivés. Et c'est encore vivant, ça bouge encore, c'est encore différent, c'est... Il y a encore d'autres défis à relever, en particulier celui de garder une population jeune et active sur l'île. Voilà.
Régis Leclerc, à vous insister sur le Q à la fin de votre patronyme pour bien signifier votre appartenance au nord de la France.
Tout à fait, oui.
Qu'on n'aille pas penser que vous êtes Groisillon.
Non, effectivement, je suis ce qu'on appelle un néo-Groisillon. Je suis là depuis peu de temps. J'habite Groix depuis un an et demi. Je suis arrivé à la période de ma retraite. Et j'ai fait ce choix, encore possible à l'époque, parce qu'il devient de plus en plus difficile à faire, de m'installer sur l'île.
De plus en plus difficile, parce qu'effectivement, le prix du foncier, voilà, un peu comme dans certains endroits très prisés en France, augmente, enfle. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous représentez ces nouveaux habitants, qui effectivement ne sont pas appelés Groisillons, mais... On leur appose le néo, qui n'est pas très très valorisant.
Non, il y a pire. Il y a étrangers aussi. Je crois que c'est une longue période qui m'attend pour être considéré comme étant vraiment intégré de la société locale. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on gagne, c'est pas quelque chose qui est donné d'avance.
Comment ? Il y a des clés ?
Il y a des petites règles toutes simples. C'est certainement de ne pas avoir un comportement d'envahisseur. Hein, parce qu'on arrive là avec notre pouvoir d'achat, il faut le dire. Dans une société qui est fragile, qui a aussi une grande fierté de sa culture, de son passé, de ses habitudes. C'est une société complexe.
Cette époque-là, où effectivement Portudi était le premier port tonnier de France, Gilles Bernexer est définitivement révolu, parce qu'il faut plonger avant les années 50 pour rentrer dans cette évocation. 300 tonniers.
Ah oui, 300 tonniers, il faut plonger avant la guerre. Parce que après la guerre, il y avait une soixantaine de tonniers. Mais une soixantaine de tonniers, ça remplissait une partie du port.
Alors là, aujourd'hui, on a le départ du bateau qui nous a amenés, d'ailleurs, ici, oui, de la SNM.
Oui.
Qui a vomi son flot de touristes quotidiens. La saison estivale commence. Il y a quelques minutes, on a été accueillis par trois scooters des mers qui vous font, qui vous révoltent un peu parce que la nuisance est certaine, perturbe un peu la tranquillité. Ça veut dire que le village, enfin le village, le visage de l'île n'est plus le même et que c'est avec nostalgie que vous nous recevez.
C'est pas avec nostalgie, ça me fait mal quand je vois les scooters de mer, par exemple. Quand je vois des plaisanciers, qui, surtout ceux qui vont à voile faire le tour de l'île, ça me fait plaisir. Je sais bien qu'on n'en est plus au tonnier, ça me fait très plaisir, même parce qu'il y a des gens sympathiques là-dedans. Hein. Mais quand les scooters des mers, pour moi, c'est une autre chose. Ça perturbe un peu la paix qui règne sur cette île en général. Moi, ça me gêne.
C'est un des plus petits ports de Bretagne. Je crois que c'est le plus petit port de Bretagne, mais il y en a qui se battent un peu, parce que l'ouverture d'un port...
Porlet, si mignon. Jean-Luc Blin.
Ah oui, c'est mignon comme tout. Oui. Et l'ouverture d'un port se calcule, sa taille se calcule à l'écartement entre les môles, entre les quais. Et là, il est vraiment tout petit. Mais ici, imaginez une chose, remontez des années et des années avant. Imaginez qu'au fond, il y avait jusqu'à 4 tonniers qui se mettaient à couple pour s'espalmer, comme on dit, c'est-à-dire nettoyer la pelouse dessous, hein, en clair, tondre. Et qui étaient les uns contre les autres à couple avec des béquilles et qui rentraient là-dedans. Et c'était des grands voiliers, puisque c'était l'île des tonniers. Enfin, maintenant, l'île continue à vivre avec ça au fond de la tête, mais c'est plus que ça, une île, quand même. Alors, ça, c'était Porlet. Et le site, un site qui est quand même assez énorme, puisqu'il y a l'ancienne dernière conserverie où il y a des locaux un petit peu partout. Ce site, il a été racheté par la communauté d'agglomération de Lorient. Et nous, depuis 3 ans, on a d'abord commencé comme squatteur officieux, puis officiel, puis maintenant on a le droit d'être là. Nous, c'est le Festival International du Film Insulaire.
7e édition cette année.
7e édition.
En tout cas, ça a à voir avec notre présence ici, parce que ce Festival International du Film Insulaire, évidemment, il faut bien essayer de définir ce que serait un film insulaire. La définition est d'ailleurs... pas si facile que ça à apporter, mais surtout ce que ça veut dire habiter une île. Jean-Luc Blin, vous qui, d'île en île, avez voyagé, et aujourd'hui on a l'impression que vous êtes à marée ici,
ah, j'ai
comme
posé
un refuge.
Sac, c'est sûr. Pas comme un refuge, non.
Posé son sac.
J'ai posé mon sac, oui, après pas mal de bourlingues et de vadrouilles à travers la terre, mais ça a toujours été l'endroit où j'avais envie de revenir, même quand je bourlinguais ailleurs, et où je revenais d'ailleurs. Mais c'est pas une île refuge, non. Non. Mais c'est
même si ça peut être une vertu de l'île.
Oui, mais une île, ça peut être tellement de choses différentes. Je crois qu'en définitive, une île, c'est très exactement ce qu'on a envie soi-même que ce soit.
Celle qu'on s'invente ?
Je crois qu'on se l'invente, oui. Oui, tout à fait.
Pourtant, ici, c'est une île réelle.
Oui, mais c'est, je parle de la vie. Moi, j'aime vivre sur une île.
Régis, vous vous êtes inventé votre île d'une certaine manière, ou ça aurait pu être une autre île que Groix ?
En toute honnêteté, non, je ne me suis pas inventé d'île. On avait un projet de couple, ma femme et moi-même, c'était, on savait qu'on ne passerait pas notre retraite là où on travaille, on était Lillois. C'est-à-dire qu'on est venu comme ça, tout à fait par hasard. C'était en plein hiver, c'était juste après l'Erika. On est arrivé sur cette île, il faisait un temps de chien, vraiment. Et puis, on voyait tous ces gens qui s'affairaient avec des petits seaux, vous savez, d'enfants, avec une petite pelle, et ramassant des morceaux comme ça de cette merde qui les envahissait. Ça m'avait profondément ému. Et puis, en même temps, tout en souffrant de les voir souffrir, la magnificence de ces lieux. Ici, il y a un mot, on dit la pelouse. Je ne sais pas si c'est... Mais la pelouse en bord de mer, vous voyez ça sous les embruns, etc. C'est merveilleux. On en avait plein la figure, plein les yeux.
Père Guillot, une première peut-être spécificité pour évoquer votre ministère. Vous êtes ici appelé toujours le recteur.
Oui, c'est particulier. C'est particulier, c'est en Bretagne uniquement qu'on parle de recteur. Et moi, je suis le recteur de Groix depuis 6 ans.
Alors, pour parler justement, Père Guillot, de ces groisillons dont vous pouvez sonder les âmes, peut-être, non ?
On essaie. On essaie.
Comment vous les définiriez ?
Ah ben les groisillons, ce sont des gens très sympathiques, très accueillants. Parce que de plus en plus, les îles, quand même, eh bien, les îles deviennent des... C'est touristique, quoi. Alors, on vit du tourisme. On vit du tourisme. Mais il y a beaucoup plus de résidences secondaires que de résidences principales, hein, de plus en plus. Vous avez, par exemple, c'est le prix des maisons. C'est exagéré. Alors, vous voyez, par exemple, la grand-mère qui disparaît. Bon... Qu'est-ce qu'on va faire de la maison ? On habitait cette maison depuis des générations et des générations. Imaginons qu'il y a 4 enfants. Sur les 4 enfants, il y a 3 qui habitent la région parisienne ou ailleurs. Et puis il y a un qui est resté sur place et qui aimerait bien conserver la maison. Mais ça coûte tant. Alors celui qui reste à Groix, il dit, c'est pas possible, vous savez bien que c'est pas possible. Ah, ben c'est le tarif. Alors qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, on vend.
Péché véniel.
Peut-être. Voilà.
Surtout que c'est une île ici où les gens, majoritairement, les groisillons, je parle de ceux qui sont de souche...
Et qui sont de moins en moins nombreux.
Et qui sont de moins en moins nombreux, on est d'accord. D'ailleurs, combien sont-ils ?
Bon, on exagère un petit peu de temps en temps, parce qu'évidemment, ça peut être... Si on dépasse les 2000, ça peut être pour les subventions et tout le reste, c'est toujours intéressant. Mais 2000, c'est le maximum pendant l'hiver. Mais il faut savoir aussi que ce sont pour la plupart des retraités qui ont bourlingué sur tous les mers du monde, parce que ce sont les anciens marins. Alors on vit, si je leur disais ça, parce que je me méfie un petit peu quand même, parce que, bon, faut faire attention à ce qu'on dit.
Nous, on part, mais vous, vous restez.
Moi, je reste, oui. Alors, ben, évidemment, vous voyez, donc, ils ont quand même une pension relativement convenable, disons. Et puis ici, on vit aussi peut-être plus facilement que sur le continent. Tous ces retraités qui sont des anciens marins, ils ont tous leurs petits bateaux. Et ils s'y connaissent. Ils vont tous les jours, même à 88 ans, j'en connais un 88 ans, il est tous les jours en mer. Alors il revient avec du poisson, on distribue aux voisins. Le lendemain, c'est le voisin qui va en mer et qui lui aussi eh bien, revient avec eux quand même. Plus ou moins, ça dépend des jours, mais qui en général ne vient pas bredouille. Alors, vous voyez, on peut vivre, on a du poisson.
Alors les jeunes.
Ici. Alors les jeunes. Eh bien, les jeunes. Autrefois, on ne discutait pas. On était marins de père en fils. On se posait même pas la question.
À 12 ans,
on partait en mer avec son père. On était mousse. Bon, c'est terminé, ça aussi. Tout le monde, comme ici comme ailleurs, on fait des études. Alors à 20 ans, 25 ans, il n'y a rien. Il y a une seule chose qui peut encore donner du travail aux jeunes, c'est le bâtiment. Mais ça veut dire qu'on est maçon. Alors si bien que eh bien, les jeunes partent.
C'est un endroit extraordinaire. Mes enfants étaient à l'école dans cette grande bâtisse là qui domine le port. Et on continue de profiter de ce cadre assez génial, oui. Et du coup, on peut sortir et aller sur l'eau. Et les enfants, là, il y a 2 minutes, ils étaient en train de sauter dans l'eau en rentrant tellement ils étaient contents. Et l'eau n'est pas très chaude pourtant.
Alors parlons avec le journaliste que vous êtes obligé d'être de temps en temps, Bernard Vanoni, justement de l'envers de la carte postale, de l'hiver, de l'eau qui n'est pas très chaude, de ces enfants qui décident de sauter dedans, de ces 2 enfants que l'île ne comptera plus et qui encore, 6 mois plus tard, sont un peu dans les mémoires.
Oui, ça nous a beaucoup marqué. C'était des jeunes adultes, hein, ils avaient une 20aine d'années. crois que c'était peut-être un défi comme on en fait à cet âge-là. Et en même temps, c'est vrai que ce rocher, c'est un rocher mythique. C'est presque un, on va pas dire un passage obligé, mais presque quoi. C'est de sauter de ce rocher, ça, on rentre presque dans une catégorie à part quoi, quand on sait sauter de la roche du bâton quoi.
La roche du bâton.
Cette fameuse roche quoi, où ces deux jeunes se sont noyés quoi.
Les vagues atteignaient 5 mètres de haut hier soir au large de l'île de Groix dans le Morbihan et la mer était glacée quand deux jeunes d'une vingtaine d'années ont plongé à l'eau à partir d'une plateforme située près de Port Tudy. Des témoins ont aussitôt alerté les secours et un important dispositif a été mobilisé pour tenter de les retrouver avec des plongeurs soutenus par un hélicoptère de la protection civile et une vedette de sauvetage. En fin d'après-midi, les recherches ont dû être suspendues, elles reprendront ce matin, mais les sauveteurs ne sont pas optimistes.
Mais c'est vrai que de tout temps, moi j'ai pas vécu ado, mais mes enfants de tout temps ont sauté dans différents endroits et ça se fait partout. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un rocher un petit peu haut, je crois que c'est tentant. Ça fait partie des...
Sauf que l'imprudence était avérée, puisque c'était l'hiver, que les vagues atteignaient 5 mètres, que l'eau était gelée, et que c'était le lendemain de fête.
C'était le 1er janvier, on avait fait la fête toute la nuit, et puis le lendemain, il fallait faire une démonstration, il y avait la tempête, et alors nous, on est du pays, on connaît bien, alors on va plonger. Il y avait des photographes qui étaient là, et puis ce qui devait arriver est arrivé. Ils avaient bu.
Il y avait des photographes qui
étaient là. Bien sûr, enfin des photographes, pas des professionnels. Non. Mais vous aviez des gens pour prendre des photos. Alors, ce qui devait arriver est arrivé. On a plongé, il n'est pas revenu. Et puis ensuite, son ami et son copain a plongé pour essayer de le sortir. Et puis, lui, il est resté. Et puis, il y avait une autre personne qui voulait faire la même chose et qui serait restée. Mais on l'a empêché à la dernière minute. Ça, c'est de l'inconscience. Alors, évidemment, on a pitié de ces jeunes d'en partir à 20 ans. Hein, mais enfin, on se dit, il faut quand même un petit peu réfléchir aussi de temps en temps. On ne fait pas n'importe quoi.
Alors, est-ce que ça permet d'évoquer justement cette jeunesse ici qui trouve un peu difficilement sa place et d'évoquer l'autre côté de la carte postale quand l'hiver vient et que vous êtes entre vous? C'est une phrase que oui. Beaucoup d'Iliens prononcent, on est entre nous.
Oui, mais il ne faut pas exagérer. Puis, combien de fois on m'a dit, oh là là, pendant l'hiver, vivre sur une île, ça doit être épouvantable, ça doit être ceci, ça doit être cela. En réalité, on vit, même pendant l'hiver, et bien comme partout. Quand il pleut, on reste chez soi, qu'on soit sur le continent ou qu'on soit à Groix. C'est le fait d'être sur une île, avec des contraintes quand même. Évidemment, il y a des contraintes, il ne faut pas non plus croire que c'est le paradis terrestre ici.
Il y a deux paradis au ciel, dit-on. Hein?
Peut-être, oui. Mais nous, on est...
Ah, peut-être.
Peut-être.
Oh.
Mais ici, vous savez, sur une île, et puis on trouve tout ce qu'il faut. J'ai chopé en face, je traverse la rue, j'ai le marchand de poissons, le poissonnier, je fais 10 mètres de plus, j'ai le boulanger. Bon, je suis bricoleur, je vais à Castorama ou bien alors à l'équivalent, je trouve tout ce qu'il faut. On trouve sur l'île exactement ce qu'on trouve sur le continent. Alors on n'est pas tellement démunis.
Frédéric Lecornou, avoir 20 ans à Groix.
Il faudrait leur demander. Moi j'en ai le double. Avoir 20 ans à Groix. À mon avis, c'est une chance incroyable. Quand on est là, peut-être qu'on s'en rend plus compte, parce qu'il manque beaucoup de choses. Culturellement parlant, par exemple, c'est vrai que l'île de Groix ne propose pas forcément ce que va proposer une grande ville. Hein, le cinéma est rare, les concerts peu fréquents, le théâtre est quasi absent, la littérature elle n'est pas facile d'accès non plus, donc c'est... Peut-être effectivement un enfermement qui fait qu'on a 20 ans à Groix, on a envie de partir. Alors après, il y a plusieurs moyens de partir. Hein. On parle beaucoup, dès qu'on parle de jeunesse à Groix, les éditos réguliers du maire parlent souvent parce que c'est vrai qu'il existe un problème, hein, de problème d'alcool, voire de drogue. Je crois pas que ce soit inhérent à l'île de Groix. C'est un problème peut-être qui existe un peu partout. C'est vrai que l'alcool à Groix a une place non négligeable, on va dire. Et donc tout ça est à surveiller, ouais. Tout ça est à surveiller parce que c'est comme je disais, chacun cherche à s'évader quand ça fait 20 ans qu'on est là, d'une manière ou d'une autre, et puis bah, certaines évasions peuvent mal tourner, quoi.
Deux mots sur l'endroit où vous êtes.
Sur Porlet, là, on a vraiment de la chance, c'est un petit port sympa, pas de voisins, et puis on est vraiment tranquille pour répéter, quoi.
C'est-à-dire qu'on peut faire tout le bruit qu'on veut.
Ah ouais, ouais, on peut faire du hard rock sans problème, sans faire chier les gens, quoi.
Un mot aussi sur le nom du groupe, les hôtes.
Ouais, donc qui veut dire un peu fêlé, représentatif de l'état d'esprit des musiciens. Ouais.
Donc ça c'est du patois.
Ça c'est du patois breton, ouais. Zote en breton, ouais, ça veut dire taré.
Alors on est en Bretagne et on est sur une île aussi.
Ouais, exact.
Et fier d'être sur une île.
Fier, oui. On est très fier d'être Groisillon. Hein. Très.
Ouais.
Donc on le revendique.
Ouais, ouais, ouais. Enfin plus ou moins. Hein, ouais. On est gentil quand même. Hein, mais...
Moyenne d'âge du groupe.
Moyenne d'âge du groupe, bah, 23-24 ans, quoi.
Par contre, est-ce qu'on peut se permettre de faire un petit réglage, faire en sorte que ce soit propre ? Merci.
J'ai l'impression que tous les Groisillons, enfin pas seulement les Groisillons, aussi bien les néo-Groisillons que les autres, se sentent concernés par ça et se disent qu'on n'a pas su intéresser ces jeunes à quelque chose de valable, qui les retire un peu des bistrots. Parce que c'est bien d'aller faire passer un moment dans un bistrot, mais quand on y passe beaucoup de temps et s'ils sont morts, je pense que c'est qu'ils avaient trop bu. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et moi, je crois que toute la communauté s'est sentie coupable, mais en même temps un peu impuissante, parce que que faire ? Parce que si c'était qu'un groin, mais je pense que ça existe un peu partout, et c'est vrai que moi, j'ai eu des enfants, j'en ai eu quatre, et puis on a trois, ça, il n'y avait pas de problème, et puis on a un, ça a été toujours assez difficile. Bon, bah, il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir, et que faire, ben je sais pas. Franchement, j'avoue que...
Au début, on s'appelait les autres Mitch. Donc, Zote, ça a cette connotation de fou, un peu cinglé. Et Mitch, ça pousse un petit peu dans l'extrême. Extrêmement fou, extrêmement cinglé, voire à moitié bourré également. Quoi. Et on a supprimé le Mitch. Et puis voilà, quoi.
Et puis alors on gomme le côté définitivement défalqué, c'est-à-dire ouais, l'alcool, plutôt, tout ça.
Bah disons qu'avec le temps on a pris un peu de maturité aussi, je veux dire on était plutôt gamin, donc on voilà, ça semblait un peu évident. Le Mitch on l'a enlevé parce qu'on se considérait plus mature.
Voilà, ah, moi ça me rappelle quelque chose, mais ça va vous faire bondir. Il y a eu un interview très très mal digéré ici à Groix, qui a été donné par... certainement un jeune que vous connaissez, qu'on va pas nommer, à un confrère d'Europe 1 qui disait, de toute façon, ici à Groix, les jeunes, pour eux, il n'y a rien, il n'y a plus qu'à se bourrer la gueule le soir.
C'est pas notre point de vue. Ça dépend de la personnalité de chacun. Je veux dire, s'il y a des gens qui ne sont pas clairs dans leur tête, ça, bon, c'est triste pour eux, quoi. Mais je veux dire, nous, par exemple, on se sort bien, on fait de la musique, on se déplace, on sort, on va voir du monde. Voilà.
Donc avoir 20 ans à Groix, question à trois membres des autres, puis vous résumeriez ça comment ?
Plutôt, c'est cool. C'est très agréable.
C'est très agréable, c'est super
c'est très
cool.
Agréable parce que c'est la liberté, je veux dire. Moi, j'en rigole souvent, je dis que c'est un petit peu le village d'Astérix. Quoi.
Ouais, c'est un peu pas pareil.
On est dans notre bulle.
Il est pas frais, mon poisson.
Ça veut dire quoi, la bulle ?
C'est une façon de penser. Après, je pense que tous les Iliens ont ce genre de façon de penser. Quand on se connaît tous, on est tous solidaires les uns des autres.
On a tous grandi ensemble depuis qu'on est gamin. On se connaît tous, quoi. Donc, il y a deux collèges, tout le monde se connaît, quoi.
Puis après, c'est une question aussi de paysage, de décor, quoi. Je veux dire, le cadre ici est complètement idyllique. Quand on est gamin, on grandit sur Angroise. Je veux dire, c'est génial, quoi.
En tout cas, longue vie aux hôtes.
Merci. On n'a qu'à faire un batmup, tout simplement, par exemple.
On fait un couplet en
batmup direct.
Saint-Dessin, la curiosité la plus célèbre de Groix, qu'on se le dise, n'est pas un site naturel comme le Trou de l'Enfer ou de la plage des Grands Sables. C'est pas non plus une construction remarquable ou bien une église, mais un bar, non? Le Thibedef?
Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est un bistrot qui est connu un petit peu, je dirais, mondialement.
Tous les voileux s'arrêtent ici?
En général, ouais. C'est un passage un petit peu, je ne dirais pas obligatoire, mais bon, c'est ça, c'est dans la coutume, quoi. Mais il faut peut-être penser aussi à aller de l'avant maintenant, hein. Il ne faut pas toujours rester à l'époque ancienne, à l'époque des voiliers et tout ça, c'est bien loin.
Hein. La grande question, c'est que l'île continue à vivre quand les touristes sont partis.
Oui, ouais. Ben, ça serait l'idéal.
Ça serait
l'idéal.
Ouais. C'est mieux de parler des choses qui vont bien que de celles qui ne vont pas, en règle générale. Les jeunes pensent à quoi?
Ah ben, moi, je suis pas dans la tête d'un jeune. Bon, ben, y a toujours un souci de travail. Hein, c'est toujours ça. C'est toujours. J'entends par contre des jeunes qui disent ouais, bon, aussitôt que je veux partir, je m'en vais et tout ça, mais bon.
Ou alors quand il y en a qui disent aux collègues d'Europe 1 ici le soir, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à picoler.
Trop picoler, non, ça c'est un grand mot, hein, non. Il faut avoir des occupations, il faut. Hein, bon, je sais pas, moi, il y a quand même pas mal de choses sur moi. Hein. Tous les jolis gamins et tout ça, là, au niveau des écoles et tout ça, bon, il y a quand même plein d'associations culturelles, il y a un tas de choses, on peut faire un tas de choses, hein.
C'est vrai qu'avant,
il faut se dire que Groix, moi, je suis content de vivre ici. J'ai eu bien sûr la chance de trouver un emploi, mais moi, je sais que moi, je m'embête pas à Groix. Hein. Moi, je suis très bien ici. Quitter mon caillou, ça serait dur pour moi. Hein. Ah, ouais, moi, c'est.
Y a quand même. Vous l'avez fait ?
Non. Sincèrement, non.
Non.
Je suis toujours resté ici. Hein. Ah ouais. Ah ouais, moi, c'est. Je sais que pour me faire partir d'ici, il faut se lever de belle heure.
Le moins qu'on puisse dire, Patrick Sego, c'est que la vue est imprenable sur Portudi. Vous êtes peut-être même la meilleure.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est la tour de guet.
Ou alors, on peut déguster tranquillement un petit plateau de huîtres et d'autres fruits de mer. Quant aux moules que vous élevez, c'est juste à la sortie du port. Ça n'a pas dû être une mince aventure de décider de s'installer sur le caillou, de s'arrimer alors qu'on n'y est pas né.
Oh bah c'est pas si dur que ça, hein. Il suffit de le vouloir en fait. C'est pas une réserve d'Indiens, hein, donc.
Quand on gratte la coquille, qu'est-ce qu'on découvre par strat?
On trouve des gens qui vivent sur un petit bout de caillou. Qui se supportent toute l'année, qui se retrouvent un peu dilués l'été, un peu beaucoup, ce qui fait d'ailleurs une pause pour tout le monde un peu. C'est ce que disait je sais plus qui, toute l'année on met une heure pour aller acheter le pain parce qu'on croise plein de gens, alors que l'été on met 5 minutes. Parce qu'on connaît plus personne.
Donc on attend l'hiver ?
Donc on attend l'hiver. C'est pas le plus désagréable, ouais, c'est vrai que il faut les deux, ça équilibre un peu. L'été aussi, et on l'attend aussi, ça fait du bien. Voir un peu de monde.
Et quand l'hiver rime avec fait divers ?
Bah évidemment, ouais, c'est encore dans les esprits, ça c'est sûr, parce que les gamins, tout le monde les connaît. Donc ça peut pas passer inaperçu, c'est pas juste un fait divers, mais.
Avoir 20 ans à Groix, est-ce que ça peut s'accoler justement à cette espèce d'acte désespéré où on est dans la caricature ?
Bien sûr qu'avoir 20 ans à Groix, il y a des gamins de 20 ans, il y a de tout comme partout, quoi. Donc. Un terrain glissant là sur lequel vous me faites aller. Donc il ne faut pas généraliser toute la jeunesse à ce drame, quoi. C'est certainement un révélateur de soucis d'alcool, de drogue, pas forcément pour parler de ces deux-là, mais comme il y a, je pense, partout en France, on ne parle pas des gamins qui s'éclatent ici, quoi. Le truc, c'est que ça a été un petit peu stigmatisé par un de vos confrères peu de temps après, et ça avait été relativement mal vécu par Lille, parce que ça avait eu tendance à mettre dans le même sac tous les gamins de Lille, comme si la jeunesse de Groix se résumait à des grosses cuites, quoi. C'était un peu simpliste.
Il y a différentes façons d'avoir 20 ans sur l'île.
Ouais, mais alors encore une fois, moi je suis pas très bien placé parce que moi j'ai jamais eu 20 ans sur l'île. Donc je suis pas sûr d'être à ce niveau-là la personne la plus à même pour répondre. Enfin, ça faudrait demander ça à Christian.
Ici c'est un microcosme. Et je suis venu moi personnellement ici sur le Caillou. Mais au bout d'un certain temps, ça tourne en rond, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est. Faut pas être claustro, quoi. Il y a une lourdeur qui est due quelque part, moi, enfin ce que je pense, c'est dû aux gens de l'île. Insulaire, fermé, c'est un peu comme des fois ça peut représenter une tôle. Et de l'autre côté, ben, y a tout ce qu'il y a autour. Quand on sait le regarder, l'immensité de l'océan, la mer, le ciel, enfin tout ça, ça donne aussi un côté extrêmement libre. Et puis voilà, c'est
ça, je pense que les gamins avant devaient peut-être plus profiter de la côte. Passer plus de temps en bord de mer parce que pas de télé, quoi. Pense qu'aujourd'hui il y a peut-être plus de modèles comme il y a dans tous les bleds de campagne ou de France et de partout dans le monde d'ailleurs, où il y a ce foutu modèle de télé et de tout ce qu'on voit qui font que les gamins courent moins les champs et la côte, en l'occurrence ici, puisqu'ici c'est plus la côte que les champs, quoi.
Quand t'as connu la ville, quand t'as pas connu la ville. Au bout d'un moment, la côte, je suis t'en as ras-le-bol, quoi. Faut aller voir ailleurs. Ouais, je suis parti.
T'es parti. À quel âge t'es parti ?
14 ans.
Ouais, c'est
ça. Mais une fois que t'es parti, quand t'as vu ce qui se passait en ville et puis ailleurs, ben, tu fais le choix, quoi.
Mais encore, faut pas généraliser. Il y a des gamins qui restent ici toute leur vie et qui sont très heureux et qui veulent pas bouger et qui bougent un peu de temps en temps, enfin, qui sont bien là, quoi.
Il faudrait qu'ils bougent.
Chacun libre.
Ah non, je suis désolé. Moi, je pense. Non. Quelqu'un qui reste sur 8 km sur 4 toute l'année.
De temps en temps, on a.
Enfin, faut pas qu'ils utilisent que la télé pour s'échapper, quoi.
Ouais, il y a le bateau aussi pour sortir.
Bah voilà, mais des fois c'est compliqué de prendre le bateau parce qu'il faut avoir un logement de l'autre côté, faut avoir une voiture de l'autre côté, faut avoir les ronds pour se payer les voyages, faut avoir tout ça. Et un gamin de 20 ans n'a pas spécialement ça, c'est pour ça qu'il reste ici, puis qu'il, ben, des fois ça tourne en rond, quoi. Quand ça tourne en rond, ben ça tourne pas rond.
Et quand ça tourne pas rond, ça peut tourner carrément au drame.
Hélas, oui, bah ouais, mais ça après. Enfin. C'est super grave, c'est touchant, c'est.
C'est vrai que le risque d'en parler, c'est de stigmatiser.
Bah, ou peut-être réveiller les consciences. Hein. C'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il faut en parler, il faut pas avoir à peur d'en parler.
Comment avez-vous décidé, Éric Régénermel, monsieur le maire, d'aborder l'événement qui a secoué les consciences ici au lendemain du 1er janvier dernier, je crois, frontalement.
Ah oui, frontalement, enfin, Ces jeunes là qui sont morts tragiquement sont des jeunes que je connais depuis qu'ils sont tout petits déjà, en tant que médecin, en tant que qu'habitant de l'île. On est donc, comme souvent sur les îles, très affectivement liés. Ne pas essayer de tirer quelque part quelque chose de ça, c'était pas possible. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma nature. Je ne mets pas le boisseau sur les choses. Enfin, quand quelque chose est aussi violent, aussi évident, à un moment, il faut se dire comment on va en sortir par le haut. Alors, sur le cas très précis des deux jeunes qui sont morts, il y a plus, je dirais, du défi, de la prise de risque, quelque chose de l'ordre de ce qu'on voit sur les routes, hein, avec tous ces accidents, tous ces morts. Évidemment, ça a été plus emblématique parce que ben, c'est la mer sauvage, c'est la tempête, c'est... j'allais dire cruellement que c'est plus esthétisant peut-être pour les médias qu'une simple un simple écrasement de voiture contre un poteau, mais le résultat est le fond de l'affaire elle-même. Par contre, nous en tant que communauté, c'est quelque chose qui nous déchire intérieurement, qui nous fait très très mal. Les églises pour les enterrements étaient pleines dehors, il y avait une foule, le bourg était rempli de gens pour aller à l'enterrement. Enfin, je me rappelle de ce défilé de jeunes, tous désespérés, en pleurs, à cet enterrement. Ils étaient là, tous les jeunes de Groix, ceux qui sont à Groix, ceux qui sont en partie à Groix et sur le continent, étaient venus. Pour eux, c'était une partie d'eux-mêmes qui était partie. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme les vœux du maire étaient cette semaine-là, évidemment, je n'allais pas faire les vœux du maire comme je l'avais fait l'année passée en parlant de ce dont je vous ai parlé avant, qui est l'avenir de l'île, ou la façon dont on allait pouvoir affronter les nouveaux défis de la société. Ou c'était ça a pris évidemment de la place dans mon discours.
Et qu'est-ce que vous avez écrit? Je crois que là, il y a le bulletin justement de ce mois de janvier 2007. Que beaucoup de gens ont encore en tête ici à Groix. Votre édito commençait comment?
Ben, mon édito, je vais pas le lire, mais...
Si, vous pouvez.
Ben, je disais ce que je viens de vous dire, c'est qu'il est difficile de présenter ses voeux à une petite communauté après la mort violente de deux jeunes Groisillons. La douleur des familles est au-delà des mots, ces jeunes ont disparu dans les flots pour s'imposer dans nos esprits et dans nos cauchemars. Pourquoi plonger ce jour dans l'eau glacée? Pourquoi d'autres disparaissent-ils pour avoir outrepassé les panneaux danger? Pourquoi tous ces morts sur la route par imprudence et sous l'emprise de l'alcool? Donc à partir de là, j'ai parlé de l'alcool, évidemment, dans mon discours. Hein, de l'alcool violent, de cet alcool... écoutez, je vais pas vous dire mon discours, je vais vous dire une chose, une histoire vraie qui est arrivée pas longtemps après. J'ai été appelé en tant que médecin chez des résidents secondaires dont le fils était parti pendant une demi-heure avec des copains. Il est revenu pas bien. Et la mère, infirmière, s'est aperçue qu'il était vraiment pas bien du tout. Et donc je suis arrivé en urgence. On a fait la réanimation du jeune homme de 15 ans en question. Il était en coma éthylique. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, il avait sifflé la moitié d'une bouteille de vodka. C'est pas spécifique de Rouen, c'était un petit résident secondaire. C'est maintenant la manière dont les défis se font à travers une certaine génération, avec les dangers que ça présente. Probablement, on vit dans un type de société où la solitude prend trop de place. Je pense chez les jeunes. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut. Alors, pour lutter contre ces sentiments de solitude, on a des conduites de plus en plus extrêmes, de plus en plus étonnantes quelquefois, auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, c'est peut-être comme ça qu'on peut l'analyser. Moi, je suis moi-même père de 5 enfants. Hein, donc, mon aîné a 25 ans, mon plus jeune en a 14. Et je suis pas tranquille. Je sais que ça peut m'arriver demain, ce genre de mésaventure.
On ne peut pas s'empêcher d'y penser, parce que c'est certainement pas spécifique à Groix, mais nos jeunes adolescents, enfin que nous côtoyons, nous, dans le cadre du collège, on sait que certains jeunes consomment effectivement de l'alcool, voire des drogues.
Donc il y a tout un travail de sensibilisation, de prévention, et puis surtout de faire émerger une parole, que le tabou soit un peu... Parce que c'est... Voilà, on parle de ces choses-là en face d'une plage aujourd'hui qui revêt des aspects paradisiaques. On voit une réalité de l'île qu'il serait peut-être bon de taire, tout simplement. Bernard Manoni.
Non, je crois que ça peut tout à fait cohabiter parce qu'en fait, il y a incontestablement, c'est certains enfants qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes et qui dérivent quoi, dans leur comportement. Moi, j'ai entendu des jeunes du collège me dire « Mais pour qui on nous prend ?» comme si on était tous dans cette situation-là. Moi, l'autre jour, on a fait une semaine de kata et de planche à voile. Et ils avaient une niaque extraordinaire. Ils faisaient un temps dur. Et puis pourtant, ils étaient tous là, quoi. Hein. Donc, ils ont croché dedans. On faisait la route en vélo. Quand on revenait les jambes fourbues après une après-midi de voile, ils remontaient sur les vélos et puis ça tortait. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des enfants, il y a surtout et essentiellement des enfants en très bonne santé et qui sont, enfin je veux dire, qui vivent dans un environnement exceptionnel. Hein. Mais malheureusement, effectivement, il y a certains enfants qui sont mal dans leur basket, qui vivent dans des familles qui sont certainement aussi très mal dans leur peau. On n'est plus patron pêcheur, on n'est plus fier d'avoir un métier prestigieux. Maintenant, on est soit dans du service, dans du ménage, dans de. C'est pas forcément prestigieux et ça donne pas forcément une. Je dirais cette notion de fierté d'être parent, de dire moi je fais ça, je suis bien dans mes bottes quelque part. Et puis je peux dire à mon enfant, ne te comporte pas comme ça. Alors que quand on rase les murs, ben, on a beaucoup, beaucoup plus de mal. Quoi. Bon, c'est la psychologie de la petite semaine. Enfin, je pense que.
Avoir 20 ans à Groix, c'est bien là aussi une clé du destin de l'île, c'est-à-dire proposer des choses à ses enfants devenus adultes, vaincre peut-être ce sentiment d'isolement ou leur offrir d'autres perspectives que de travailler en lien avec ses services aux touristes.
Alors, le problème, c'est ça, c'est 20 ans, c'est un âge... Là, je parle par rapport au collège. Les enfants quittent le collège, ils ont 15-16 ans. Et je dirais les 3 quarts, voire les 4 cinquièmes, continuent de se projeter sur des perspectives continentales. Et ceux qui ont 20 ans et qui vivent encore à Groix, c'est pas forcément voulu, quoi. C'est peut-être une opportunité qui s'est présentée de revenir travailler à Groix, mais pour certains, c'est un peu subi, quoi.
Parler Anita Ménard, vous qui aimez bien les envers de cartes postales, comment sur le site que vous dirigez, que vous avez créé, ildegroix.info, a circulé la nouvelle et comment surtout au niveau des forums a pu être commenté ce qui n'est peut-être qu'un simple fait divers mais qui a ici beaucoup chaviré la communauté de Groix, c'est-à-dire la disparition de ces deux jeunes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre dernière.
Le plus gros malaise a été provoqué par un journaliste, enfin quelqu'un qui se dit journaliste. Si avec moi, il n'aurait pas sa carte. Il a interviewé des gens sans tenir compte de ce qu'ils ont dit. Moi, personnellement, il m'a parlé. Je lui ai dit, ne dites pas, ne répétez pas, ce sont aussi des affaires privées, ça. Normalement, on ne se précipite pas à parler du malheur des gens comme ça. Ça aurait été des gens étrangers à Lille ou n'importe, ils auraient pu dire ce qu'ils voulaient, ça ne nous aurait pas choqué parce qu'on n'aurait pas connu les familles. Là, on connaissait les familles. Et se mettre à la place de ces familles-là, on ne peut pas écrire des choses comme il en a écrites. Quand je vous ai demandé, vous m'avez dit l'autre jour que vous aviez lu la presse et que ça avait beaucoup, Groix avait été évoqué à travers ce fait divers, je vous ai dit, s'il vous plaît, n'en parlez pas. Il y a des conséquences. Moi, j'ai eu le frère d'un des jeunes qui est décédé le lendemain ou le surlendemain de son décès, il est venu me voir ici. avec une de leurs copines, une jeune qui était présente aussi d'ailleurs dans l'histoire. Moi, je leur ai dit, on en parlera un jour de cet alcoolisme des jeunes, parce qu'il faut qu'on en parle. Eh bien, on en est là. On a la chance que le maire soit médecin, et qu'il est parent de jeunes adolescents, donc il a tous les atouts pour prendre le problème en main quand même. Peut-être que ça avancera grâce à ça.
Ce qu'on va essayer de faire sur l'île, et c'était un peu le sens de mon discours, c'est de faire en sorte qu'on rétablisse de vieux liens sociaux qui ont disparu entre parents. Ne serait-ce que la capacité d'aller voir un gamin qui dérape en lui disant « Écoute, je te connais, je connais tes parents, arrête. » Savoir dire non, c'est important. Hein, et c'est un peu ça que j'aimerais remettre au goût du jour, tout bêtement. Savoir dire non à ses enfants, c'est pas facile. Parce que les enfants sont les premiers à dire, mais tout le monde dit oui dans ce monde. Tout le monde nous propose le rêve, la lune. Et toi, tu viens de lui dire non, c'est pas possible. Donc il y a dans les nouvelles lois qui viennent de sortir de décentralisation, la capacité donnée aux maires de créer effectivement ce genre de réseau.
Des conseils de famille.
À travers un conseil pour les droits et devoirs des familles. Donc nous avons délibéré au conseil municipal il y a 15 jours. Nous avons dans un premier temps réuni ce qui est pratiquement un conseil virtuel puisque tous les professionnels ont été réunis autour de la table du conseil municipal de manière totalement discrète d'ailleurs et confidentielle pour essayer de partager un diagnostic. Il y avait donc les enseignants des collèges et des écoles, il y avait les élus concernés, des représentants des services sociaux et tout le monde partageait le diagnostic du fait que sur l'île de Groix, il n'y a pas réellement plus de dérives qu'ailleurs, mais qu'en gros, si on arrive à résoudre les problèmes sur une dizaine ou au maximum une quinzaine de gamins et de familles, eh bien, on aura pratiquement résolu tous les problèmes, ou en tout cas, on aura pallié aux situations les plus dangereuses. En tout cas, pour les gamins, bien entendu, parce que l'objectif, c'est pas d'être répressif, c'est d'aider. Quant aux familles aux quelques familles qui peuvent décider qu'elles n'ont pas de problème avec leurs adolescents, et que manifestement, il y en a, la loi permet d'avoir un certain nombre de moyens de pression, je dirais. Donc, éventuellement, on les utilisera.
Mais okay.
Par exemple, de jouer sur les allocations familiales, d'obliger à faire des contrats de manière à respecter un certain nombre de devoirs vis-à-vis de leurs gamins. Tout ça existe dans la loi. Hein. Donc, je crois en ce système dans la mesure où on est justement une petite communauté, qu'on se connaît à peu près tous. Et qu'à mon avis, on n'aura pas besoin d'aller très loin pour s'entraider.
Pour finir, avoir 20 ans alors à de Groix, monsieur le maire, Éric Régène-Hermel, ce n'est ni plus ni moins dur qu'en face, sur le continent, mais néanmoins, ça reste pour vous une vraie préoccupation.
Avoir 20 ans à Groix, c'est pas facile. Je ne sais plus quel auteur disait qu'on ne se remettait jamais d'une enfance heureuse, mais c'est un peu de cet ordre-là. Parce que à la fois on a une idée de l'enfer, une idée du paradis, et on a du mal à se situer entre ces deux extrêmes. On n'est pas sur des rails comme on peut l'être pour un jeune citadin, par exemple.
Groix, l'île réelle. Fin. Avec Éric Régène-Hermel, Jean-Luc Blin, capitaine Philippe Chaplin, Frédéric Lecornou, le recteur de l'île de Groix, le père Guillot, Gilbert Nexer, Anita Ménard, José Caloc, Bernard Vanoni, Patrick Segault et Christian, des Moules de Groix, William et Raymond, du groupe Les Hôtes, Régis Leclerc. Remerciements pour le temps qu'ils nous ont accordé à Yves Le Bailly, Yann Roland. Sur les docks, Arthur Gerbeau, Yvon Croisier, Alexandre Hérault.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour La Grande Marée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, quatrième épisode... Perdu sur Tromelin, histoire d'une survie invraisemblable.